Cube Radio.
Les Rams de Los Angeles sont champions du Super Bowl. La stratégie de se booster un club qui est enfin consacré. La zone payante était sur place pour le Super Bowl et on vous révèle tous les dessous du match du week-end. À partir de maintenant, il faudra patienter plus de 200 jours avant de voir un match de la NFL. Il est donc temps de se mettre en mode saison morte. Un peu de nostalgie, ça ne fait jamais de mal à personne. Alors, on se rappelle de bons souvenirs des joueurs qui feront leur entrée au temple de la renommée de la NFL cette année. Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Zone Payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Et je suis en compagnie de Jean Carrier et de Stéphane Cadarette. Messieurs, bonjour.
Allô, allô.
Salut.
Et c'est la fin, c'est la fin de la saison. On a assisté à un fantastique Super Bowl. On va regarder avec mes experts sous toutes les coutures comment s'est déroulé ce match. Mais d'abord, on était sur place via Stéphane Cadarette à la zone payante. On était à Los Angeles dans le stade. D'abord, là, Steph, là.
On était tous avec toi, Stéphane.
Et tu nous envoyais des photos, on se nourrissait de ce que tu nous envoyais. tu sais qu'il y a plusieurs personnes à qui j'ai parlé pendant le Super Bowl ou même avant, puis le stade, c'était vraiment un sujet. Là. C'est comme si tout le monde me disait « Hey, wow, as-tu vu le stade? » Moi, je l'ai pas vu, mais toi, tu l'as vu. On a un peu parlé la semaine passée. Mais quand il est rempli de monde, là, puis que le Super Bowl, le match ultime s'y déroule, là, c'est quoi que t'as vu? Parce que toi, t'en as fait des stades, on s'entend que c'est pas ton premier, là, mais c'est qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans ce stade-là que t'as pas retrouvé ailleurs?
Écoute, le look du stade, premièrement, parce que il y a des stades que ça finit que ça se ressemble un peu. Tu sais, il y a un petit design extérieur un peu différent, mais t'arrives en dedans, puis bon, c'est tout pareil. Là, t'as le côté ouvert, tu sais, t'as des côtés ouverts, t'as le toit quand même, c'est intérieur, extérieur, c'est très bruyant. La façon dont c'est fait, le stade, là, ils ont creusé 100 pieds au-dessous du niveau du sol pour le terrain. Ce qui fait que le bruit est très, très fort dans le stade. C'est pas toujours à l'avantage des Rams, diront les mauvaises langues, là, parce qu'il y a souvent beaucoup de fans des autres équipes qui se ramassent là. On l'a vu en finale de conférence contre les Niners. C'était un petit peu gênant par moment. Les fans des Bengals qui étaient bruyants, les gars, là, c'était quelque chose. S'il avait fallu que les Bengals prennent les devants rapidement dans le match par un toucher ou deux, là, puis qu'ils conservent cette avance-là, je pense que ça serait devenu un gros avantage. Il y a tout cet aspect-là du stade, mais
parce que la défense, c'est sûr. Parce que c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, on dirait qu'à la télé, on le sentait pas le bruit, là. Mais tu me dis que sur place...
C'est drôle, hein? Parce que j'ai posé la question à mon frère à un moment donné au début de la game, parce que je savais qu'il écoutait, j'ai dit, entendez-vous vraiment là, la différence pour... Puis lui, il dit non, je te dirais qu'on ne le voit pas vraiment. Dans le stade, les fans des Bengals étaient tellement bruyants, tellement plus que ceux des Rams. Mais tu sais, un Super Bowl, là, faut pas se faire de cachette. C'est plus corporate, entre guillemets. Tu sais, c'est pas nécessairement les vrais fans des Rams, les vrais fans des Bengals. Il y en a. Je veux pas insulter personne. Il y en a qui le sont, là, des mordus purs et durs qui vont là. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui ont l'étiquette par des commanditaires, puis toutes sortes d'ententes avec la NFL, puis des concours, puis ci, puis ça. Tu sais, fait que le public au Super Bowl, c'est complètement différent d'un match de saison régulière. Je serais curieux d'y aller là dans un match des Rams local. Mais honnêtement, c'est une merveille ce stade-là. Il est complètement différent. Puis autour du stade aussi, c'est génial se promener là. Tu sais, c'était pas autour d'un tas de béton au milieu de nulle part. Là, tu sais, ils ont vraiment aménagé quelque chose de très beau. Puis ben, c'est ça. Une fois là-dedans, quand l'ambiance se met à chauffer dans la cabane, c'est complètement différent de quand je suis allé mardi passé, une visite médiatique. Il y a pas un chat. Ils sont en train de préparer les logos sur le terrain. Là. C'était une toute autre paire de manches.
Non, mais là, quand t'es rentré, mettons, pour ton match, toi, tu te diriges directement à la passerelle des médias, je présume?
Ben moi en fait, la passerelle des médias, elle se trouve à être pleine parce qu'il faut savoir une chose là. J'ai pas eu le nombre de journalistes cette année qui étaient accrédités. Malheureusement, il y a personne qui a pu me le confirmer. Mais habituellement, on tourne autour de 5 000. Fait que vous comprendrez que 5 000 personnes, ça rentre pas sur une galerie de presse. Non. Là. Fait qu'il y a la galerie de presse, puis il y a ce qu'appelle les tables auxiliaires. Donc moi, je suis placé dans les gradins. J'étais dans section 525. Il y avait 4 sections complètement aménagées où on enlève les sections habituelles. Finalement, on installe des tables, on nous met le courant pour se plugger. On a toute l'installation là, pour travailler. Mais ça fait du monde. Quand tu regardes ça, c'est impressionnant, là, les ordinateurs qui descendent jusqu'à je sais pas où. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes sur place. Donc moi, je suis dans cette section-là. Fait que oui, effectivement, au début, je me dirige là pour voir, pour m'installer, pour voir quel genre de vue je vais avoir, tout ça. Mais ça m'empêche pas, avant le match, de me promener, de vivre un peu le moment, d'aller visiter un peu le stade, un peu partout. Là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé longtemps d'avance, puis j'aime toujours ça, faire ça le jour du Super Bowl.
Bon, puis là, le bout de chien un peu, là, mais y avait-tu de la sécurité à finir? Parce que il y avait des menaces aussi de camionneurs. Juste te rendre au stade, c'était-tu compliqué?
C'est toujours une grosse affaire, la sécurité au Super Bowl, mais je vous dirais que c'était pas pire que d'habitude. C'est toujours à peu près pareil. Ça fonctionnait même assez rondement par rapport à d'autres années où tu te sens pire qu'à l'aéroport. Là, cette année, ça a été bien de ce côté-là. Tu sais, tout est électronique, tu passes tes affaires, puis tu retrouves ça de l'autre côté du détecteur, puis tu rentres en dedans. J'ai pas eu à faire une file monstre ou quoi que ce soit. Je m'attendais que ça soit pire que ça parce qu'effectivement, là, on entendait des affaires, des bruits, toutes sortes de choses. Mais à chaque année, le Super Bowl, on dirait qu'une journée ou deux avant. Ah là, la sécurité, est-ce que ça va être ici? Est-ce que tu sais? Puis finalement, moi, en tout cas, je suis chanceux, j'ai jamais vécu de problème par rapport à ça.
Bon, là, c'était à Los Angeles, là. C'était quand même le concours des battus vus, là. Est-ce que...
Le gratin des vedettes.
Ouais, mais c'est ça, là. Nous, on a vu un peu à TV, là, mais c'était quoi un peu... Il y a du monde qui arrivait en hélicoptère, là. Je pose des questions de groupie, mais tu sais, y avait-tu comme des stars, là, qui avaient une suite, puis tu sais, t'as vu, mettons, passer des motorcades, tu sais, comment que ça s'est... Comment qu'ils ont fait pour marier un peu cette ambiance-là avec les vedettes, là?
Ah ben j'ai pas pu parce que j'ai été tout le long avec Snoop en train de consommer.
Ah ouais, c'est
non,
ça.
Non.
Aussi.
Ce ne sont que des rumeurs. Arrêtez ça tout de suite. Non, j'ai pas vu d'arrivée de vedettes spectaculaires, mais tu sais, ils sont toutes dans des loges. Il y en a quelques-unes qu'on a vues à l'écran qui nous montraient là, dans des sièges réguliers, là, entre autres, c'est pas une vedette du cinéma, mais Antonio Brown était là dans son banc bien normal, mais la plupart étaient dans des loges. Puis les loges, je sais pas si vous avez vu les gars, là, ça pouvait coûter au-dessus d'1 million là, pour louer une loge. Ça pouvait coûter des prix complètement ridicules. Fait que je me suis pas aventuré là-dedans. Moi, c'est plus durant la semaine, tu sais, au Super Bowl comme tel, t'es installé, tu travailles. Dans la semaine, ben là, je me suis amusé un peu à aller. Je sais pas si vous savez, c'est quoi le Radio Row? C'est là que tous les radios, les sites internet qui font du podcast, des trucs comme ça, s'installent là. Puis là, ils reçoivent un paquet de joueurs, puis d'anciens coachs en entrevue. Puis là, ça défile, puis là, t'envoies. Tu sais, moi, j'ai couru après pendant à peu près une demi-heure Joe Montana parce qu'il se promenait d'une entrevue à l'autre. Je voulais y parler parce que je me disais, qui d'autre pour parler de Joe Cool 2.0, Joe Burrow, que Joe Cool 1.0? Tu sais, je trouvais que c'était intéressant l'idée d'aller lui demander est-ce qu'il trouve ça juste, les comparaisons, est-ce que c'est un peu hâtif au stade précoce de la carrière de Joe Burrow? Mais j'ai couru après, il allait d'une entrevue à l'autre, d'une entrevue à l'autre, d'une entrevue à l'autre. Son agent me disait peut-être après celle-là. Puis là, à un moment donné, là, j'ai plus eu le temps, puis lui est parti de toute façon. C'est des vedettes un peu comme ça que tu côtoies. T'sais. J'ai vu Miles Garrett, Justin Jefferson, Adrian Peterson avant qu'il se plonge de nouveau dans l'embarras, était là, il donnait des entrevues. Donc, c'est des gars comme ça là que tu peux accoster. Mais par contre, tout ce qui est vedette du cinéma, vedette de la télé, ça, malheureusement, j'ai pas de potin croustillant à vous raconter.
T'as pas vu comme Cameron Diaz ou...
Je les ai vus comme toi à l'écran géant.
Steph, t'as-tu... Moi, je veux que tu me parles un peu du spectacle de la mi-temps. Est-ce que ça... sonnait bien dans le stade. Puis ça a été quoi la réaction? La foule, tu sais, à la TV, moi j'ai aimé le show. Je pense, ouais, évidemment, le show de la mi-temps, ça dépend beaucoup de tes goûts musicaux aussi.
Ça avait l'air unanime, honnêtement.
OK.
Mais la foule était dedans. Moi, puis là, c'est pas pour chialer, c'est que moi, je suis en haut, là. Je te vous le dis, section 525, là, ça veut dire qu'il y en a quatre autres en bas. Rendu là, le son, c'est so-so. Tu sais, je me suis vraiment dit, bon, je suis encore à un show pour la télé, mais je voyais des médias sur Twitter, un genre de Rich Eisen, qui, lui, est sur le bord du terrain, là. Lui, il disait, le son est fantastique dans le stade, donc je peux pas parler pour les autres qui sont, mettons, là, dans les meilleurs billets ou quoi que ce soit. Probablement que c'était bien à ce niveau-là, parce qu'honnêtement, ça semblait unanime. Tu sais, moi, ce que je voyais, c'était divertissant, c'était bon, mais je peux pas dire que le son nous rentrait dedans. Par contre, quand Eminem a parti Lose Yourself, là, je vous jure, les gradins, là, c'est comme s'il y avait une vibration au point où ça shakait, là. Ça a été un moment fort, vraiment, du spectacle que j'ai pas vécu souvent à la mi-temps, parce que je trouve que souvent, je le revois à télé après, puis je me dis, mon Dieu, que c'était bien plus tranquille dans la cabane en vrai, là. Cette fois-ci, le foule était dedans, les estrades shakaient, surtout pendant l'arrivée d'Eminem. Je vous dirais que ça a été quand même un moment solide à ce niveau-là, là. Que j'ai eu du fun à ce show de la mi-temps-là. Il y a même des fois où j'y regarde un peu distraitement. Celui-là, je l'ai suivi d'un bout à l'autre.
Bon, ben, inutile de dire qu'on t'envie tous, et j'espère que t'en as profité pour nous.
Oh oui.
Et là,
oui.
Après la pause,
j'ai trouvé ça spectaculaire, revenir à moins 18.
Oui, non, c'est sûr que le changement de température, mais là, c'est pas là où on va trouver que tu fais pitié, par contre.
Je vous comprends totalement.
Après la pause, on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le terrain. On va parler de la game. Et on va aussi parler après de l'après Super Bowl, là, parce que c'est bien beau, mais la game est derrière nous. Vous regardez déjà la prochaine saison. Bougez pas. On est de retour à la zone payante et c'est le temps de passer à travers la partie qu'on a tous appréciée. Je pense que c'est assez unanime. Autant le show de la demi était apprécié, autant le match, franchement, n'a pas laissé grand monde sur leur appétit.
C'était à l'image des présentes séries. Ça, exact, a été comme ça tout le long.
Exact. Alors, dans notre match d'aujourd'hui, on va un peu décortiquer ce Super Bowl. Puis, à tout seigneur, tout honneur, là, Johnny Boy, t'as quand même été lui qui a vu juste entre mes experts qui se remportera le match du Super Bowl.
J'avais même le MVP
et pas le résultat.
J'étais plus proche du score que toi, par exemple.
Oui, je pensais honnêtement que ça serait un petit peu moins serré.
Mais il y a ça, moi, qui m'a surpris. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je voyais qui donnaient une volée aux Rams. Puis, tu sais, j'ai trouvé que jusqu'à la fin, on a un peu manqué de respect aux Bengals.
Jean, quelle est ta lecture du match?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs constats à tirer. Le premier, c'est qu'à Los Angeles, il y a des vedettes, puis les vedettes, ben, dans les grands moments, ils se présentent, puis ça a été le cas des Rams. Écoute, le seul joueur, je trouve, potentiellement vedette, qui a eu un moins bon match un peu, c'est Jalen Ramsey.
Ouais.
Mais le reste, je veux dire, que ça soit Von Miller, que ça soit OBJ avant sa blessure, il y avait un bon match aussi. Matthew Stafford t'a démontré pourquoi on est allé chercher pour gagner un championnat, parce que quand ça a été le temps, dans la séquence offensive la plus importante, je dirais même de peut-être l'histoire de la concession, ben Matthew Stafford a été très très bon. Et évidemment, les deux meilleurs joueurs des Rams se sont levés également, que ce soit Cooper Kupp avec ses deux touchés. Et Aaron Donald, messieurs, que dire du sympathique joueur de ligne défensive. Le jeu qu'il a fait à 3 et 1 sur la dernière séquence des Bengals, quand il y a un joueur qui est en train de le bloquer, à un seul bras, il prend Perrine puis il l'arrête à lui seul. Tu sais, le monde réalise pas, là, c'est des porteurs de ballon de la NFL. Là, tu fais pas ce que tu veux avec ces gars-là. Là. Et lui, à un bras, il a dit à un porteur de ballon de puissance, non, tu vas pas chercher le first down, ça arrête ici. Ça a été un jeu absolument exceptionnel. Puis évidemment, le jeu d'après, ben sa pression a fait en sorte que Joe Burrow était obligé de lancer une grenade, puis ça en était fait des Bengals. Mais Aaron Donald a été excellent. Pour moi, un gros ajustement, écoute, je veux pas nécessairement rentrer trop dans les X et les O, mais les Rams se sont ajustés défensivement, je dirais, à la fin du deuxième quart. Ils se sont aperçus que le centre offensif des Bengals, il allait toujours aider sur Aaron Donald. Fait que ce qu'ils ont fait à partir de ce moment-là, à plusieurs reprises, ils ont mis 5 joueurs sur la ligne de mêlée, puis il y en a un qui s'en allait en couverture. Donc, ce que ça faisait, puis souvent, c'était du bord d'Aaron Donald que le joueur allait en couverture. Donc, ce que ça faisait, c'est que tu avais 3 joueurs de ligne des Rams qui s'en allaient sur un seul joueur qui est Donald. Et de l'autre côté, ben, tu avais un avantage frappant parce que tu avais 3 joueurs de ligne défensive qui attaquaient 2 joueurs ou 2 bloqueurs des Bengals. Puis là, les Bengals, à partir de ce moment-là, ont eu vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Et à la seconde qu'ils ont arrêté de doubler Donald, ben évidemment, ça a ouvert la porte à des 1 contre 1. Puis on a vu à quel point la ligne à l'attaque des Bengals était poreuse. Donc, c'est ça qui... Ça a été vraiment un gros ajustement, ça, de la défensive des Rams. Ça a changé, pour moi, je trouve, l'allure du match. Parce qu'on va se le dire, malgré tout ça, les Bengals étaient non seulement dans le match, mais ils étaient vraiment tout prêts de remporter cette bataille-là.
Mais quel impact a eu, mettons, le début aussi de la deuxième demi pour les Bengals? Tu sais, l'interception puis le long touché à Higgins, c'est là qu'il aurait dû comme mettre le dernier clou dans la...
Exact. Ils n'ont jamais été capables de le faire, mais c'est là aussi que la défensive s'est ajoutée beaucoup des Rams, puis c'est devenu difficile un peu offensivement à partir de ce moment-là du côté de Cincinnati. Puis ça, je vais donner du crédit aux Rams. Je veux pas l'en enlever en disant que les Bengals ont mal fait. Les Bengals, ils savaient que ça serait difficile. Puis les Bengals, ils avaient fait leur devoir, les gars. Là, en première demi, ils
ont très bien joué offensivement sa ligne.
Exact. Puis ils avaient bien joué offensivement, mais ils s'étaient ajustés aussi. Joe Burrow, il a lancé des passes après 2 points. Écoute, sa moyenne, c'est 2,4 secondes pour lancer ses passes en première demi. Écoute, c'est vraiment pas long, là. Évidemment, ben tranquillement aussi, les Rams, la couverture s'est ajustée. Ils ont dit, écoute, ils font juste attaquer rapidement dans les zones courtes. Donc, on va resserrer ça un petit peu. Puis dès que la protection demandait un peu plus longtemps pour attaquer justement les zones profondes, ben ça flanchait à chaque fois, là. Le nombre de play action aussi qui a été appelé dans un match normal des Bengals, je disais que c'était comme entre 7 et 10. Écoute, il y a eu 2 play action d'appelés durant tout le match du côté des Bengals. Puis ça, c'est conservateur, mais c'est au fait que t'as pas le choix. Tu le sais que t'as pas une bonne ligne offensive. Ouais. Fait, faut que tu fasses avec. Il faut que tu protèges. T'essayes de protéger ton carrière de la meilleure façon que tu peux. Puis écoute, ça a juste flanché à un certain moment donné. Écoute, Joe Burrow, ça reste quand même le seul carrière de l'histoire qui s'est rendu au Super Bowl avec une saison de plus de 50 sacks sur lui. En série, c'est maintenant le carrière qui est allé au Super Bowl avec le plus de sacks. Écoute, si on prend juste 2 matchs de série, il y a 16 sacks, les gars. C'est astronomique. C'est
incroyable.
C'est pas, à la limite, c'est pas normal que ce soit rendu là.
Le seul côté positif, c'est que les Bengals, ils ont pas à se poser de grosses questions sur leur saison morte. Disons-le comme ça, là.
Non,
c'est compliqué, là. C'est pas compliqué. Où c'est qu'on investit, les gars, là? Je pense que c'est assez clair.
Mais faut donner aussi du crédit aux Bengals parce que défensivement, puis on n'a pas assez parlé peut-être de la défensive des Bengals qui a été vraiment bonne durant toutes les séries. Les Rams ont essayé de courir la balle 23 fois. Ils ont gagné 43 verges.
Incroyable. Les statistiques, c'est dégueulasse. C'est incroyable qu'ils aient eu autant de possessions.
Ils ont absolument fermé la porte complètement de ce côté-là aux Rams. Puis moi, je pensais que les Rams seraient capables de courir le ballon un petit peu face au front défensif des Bengals. Ça n'a pas été le cas du tout. Puis ils étaient vraiment pas loin. Eli Apple a eu un match difficile.
Ouais.
Après un très bon match contre les Chiefs, il y a eu un match très, très difficile. Puis c'est ça qui explique un peu la victoire des Rams.
Mais deuxième essai là, dans notre match, j'aimerais ça aller de ton côté, Stéphane, parce qu'on a parlé toute la saison là, de la façon dont les Rams bâtissaient leur équipe. C'est comme un peu leur ils ont eu raison. Là. C'est comme si finalement, là, tous ceux qui se disent « Ah ouais, mais là, il faut bâtir son équipe puis avec par des choix au repêchage, puis un système de développement. » Ouais, mais là, en tout cas, cette année, ils ont prouvé que tu peux faire autrement.
Oui, honnêtement, c'est une approche qu'on va probablement revoir un peu plus qu'on le voyait par le passé, mais je suis pas convaincu non plus que c'est, tu sais, comme la consécration, que maintenant c'est la voie à suivre, puis ça a marché, ça c'est sûr, puis personne va leur enlever. Mais combien de fois ça a marché avant, puis combien de fois ça va marcher dans le futur, c'est ça qu'il faut se demander aussi. Tu sais, là, c'est numéro un, mais il y a une affaire que les Rams ont fait, puis il y a pas grand monde qui en parle, puis j'en avais glissé un mot, je pense, dans notre émission de la semaine passée, c'est que malgré les apparences, tu sais, ils ont échangé beaucoup de premiers choix, mais ils ont très très, très bien repêché, puis ils ont eu de nombreux choix au repêchage. Mais c'est dans les rondes plus tard. Tu sais, les rondes 3, 4, 5, 6, 7.
Cooper Kupp, ils l'ont repêché.
Et ils l'ont repêché en troisième ronde. Il y a deux joueurs, je pense, sur leur ligne offensive, quatrième ronde et plus. Des joueurs dans tertiaire, des choix de sixième ronde. Tu sais, un Darius Williams. Cam Akers, un choix de deux. Van Jefferson, un choix de deux. Il y en a plein, là. On a même vu jouer Skoronek, le receveur. C'est un choix de septième ronde, ça, je pense. Il y a plusieurs choix comme ça que les Rams ont fait qui leur ont permis, justement, d'aller all-in avec des vedettes en se disant, c'est pas grave, on a une certaine profondeur avec nos choix qui nous coûtent des peanuts. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ça, c'est pas toutes les équipes qui sont capables de repêcher comme ça aussi tardivement. Ça, c'est une chose. Un autre point... tu sais, il y a le facteur Los Angeles, là, les gars. Faut pas se le cacher, là. Les gars veulent aller jouer là. C'est une destination intéressante. On en a parlé, le gratin. Tu sais, il y a quelque chose de spécial dans cette ville-là, oui, que tu peux pas reproduire nécessairement si t'es, je le sais pas, moi, à Buffalo, n'importe où, là. C'est des marchés super trippants pour la passion des fans, qui est beaucoup plus forte que les fans de Los Angeles, probablement. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un aura autour de cette ville-là, tu sais, c'est le glamour. Ça, c'est un facteur que tu peux pas reproduire n'importe où ailleurs. Puis, il faut donner beaucoup de mérite à Sean McVay, je pense, dans tout ça. Écoute, c'est pas facile de faire fonctionner un vestiaire avec des vedettes de tout plein d'horizons, là. Tu sais, t'amènes Jalen Ramsey de Jacksonville. Tu sais, écoute, il était dans une culture perdante là-bas. Andrew Whitworth, tu l'amènes de Cincinnati, c'était pas facile non plus. T'amènes Von Miller de Denver, tu sais, c'est un autre environnement complètement différent. Odell Beckham, on savait plus trop, tu sais, est-ce qu'il était encore motivé ou quoi. Puis tu sais, là, il avait souffert à Cleveland pendant quelques années, il était plus à son niveau. Tout ça mis ensemble, c'était pas sûr que ça allait fonctionner. Je pense que McVay mérite beaucoup d'attention là-dessus. On parle de lui toujours, toujours, toujours pour les mêmes raisons. Ah, c'est un stratège offensif incroyable, les X, les O, il est en avant de tout le monde, c'est un innovateur.
Okay, mais finalement, mais c'est un gars qui est capable de rassembler aussi, là.
Ben, je pense qu'il faut juste le mentionner parce que c'est pas tous les coachs là. Écoute, il y en a eu dans le passé des tentatives de monter des clubs avec des vedettes. Rappelez-vous les Eagles. C'est-tu Michael Vick qui avait dit on a le potentiel pour être une dynastie parce qu'on amenait un paquet de joueurs là, puis hey, là, ça avait l'air invincible quand on regardait ça, puis finalement, c'était bien ordinaire. C'est arrivé par le passé qu'on a tenté un peu des approches similaires, peut-être pas au point agressif comme les Rams l'ont fait, mais c'est pas évident de faire pogner tout ce monde-là, de faire prendre la sauce. Ça, là-dessus, ben moi, honnêtement, je donne beaucoup, beaucoup de mérite à Sean McVay, là où tout le monde voit un coach de X et de O, là. J'ai l'impression que Sean McVay a été un excellent CEO, un excellent psychologue, puis qui a fait marcher un peu tout le monde dans ce moule-là.
OK, troisième essai, les boys. On va y aller avec l'avenir, parce que là, le match est derrière nous. Le Super Bowl a été remporté par les Rams, mais il y a un autre Super Bowl qui va se jouer en Arizona l'an prochain. Et là, j'aimerais ça qu'on regarde un peu les forces en présence, parce que là, on dirait qu'il y avait deux équipes qui s'affrontaient au Super Bowl, une équipe qui parle de retraite de ses joueurs, puis une autre, ouais, équipe qui se dit « Hey, wow, nous autres, on est là pour longtemps. » Et qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir, dans votre boule de cristal, là, qu'est-ce que vous voyez qui va arriver dans les séries, mais aussi qui va dominer la Ligue pour se rendre au Super Bowl l'an prochain?
Ben, première des choses, moi, j'ai même pas les Bengals comme favoris là, dans la conférence américaine. Ils vont être dans le mix, fort probablement. Mais pour moi, il y a un chiffre majeur aussi des forces. Là. La grosse force maintenant dans la NFL, c'est la conférence américaine.
Ouais.
Puis ça va vraiment être difficile de voir qui peut sortir de là à chaque année. Je serais vraiment surpris qu'il y ait une dynastie qui se fasse parce que l'opposition est juste trop forte. Que ça soit les Bills, les Chiefs, je pense que les Chargers s'en viennent puis ils vont être ouais. vraiment tannants. Là, tu rajoutes les Bengals, puis dans le, il y a quelques points d'interrogation, évidemment. Là. Tu sais, je pense que la défense des Steelers est élite, mais s'ils trouvent un carrière, ça peut changer complètement la donne. Les Browns ont quand même un très bon alignement, puis ils ont été très décevants cette année. Je pense qu'ils peuvent revenir dans le mix aussi. Moi, je trouve ça très, très difficile à prévoir.
Imagine
mon avis. Mon avis présentement, c'est les Bills qui vont selon moi, sortir. Je pense encore que les Bills étaient peut-être la meilleure équipe de la NFL de façon globale. Ils ont vraiment pas été chanceux. Puis ils se sont tirés dans le pied un peu. Là. On reviendra pas sur le match. Mais ça a quand même pris une solide malchance pour pas voir les Bills se rendre plus loin. Je pense que l'alignement des Bills est fort du début jusqu'à la fin. Sont en bas de le cap salarial, sont en bas de 4,6 millions, mais ils peuvent manœuvrer avec ça. Là, c'est pas la fin du monde. Moi, je m'attends à ce que les Bills soient dans le mix vraiment, vraiment encore l'an prochain.
Du côté de l'AFC, tu sais, moi, j'ai à peu près la même analyse que Jean. Puis les Bengals, juste pour donner une idée, là, tu sais, c'est non seulement c'est pas sûr qu'ils se rendent encore où ils se sont rendus. Va falloir, premièrement, avant de se prononcer sur quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur ligne à l'attaque. Ça, c'est la exact. Première des choses, là. Parce que tant qu'il n'y a pas de changement, puis des changements importants, on s'entend, là. Pas un petit changement tranquille, là. S'ils font de gros, gros, gros changements, moi, je les vois encore dans le mix. Sinon, écoute, ça sort pas du repas, ce qu'ils ont vécu, là. Puis non seulement c'est pas sûr qu'ils se rendent là, mais regarde leur division. Tu sais, Jean, t'as mentionné les Browns, mais les Ravens vont être encore dans le
coup. Ben oui.
Puis écoute, je suis même prêt à dire que si les Steelers font un gros move au poste de corps arrière, c'est un gros si, là, parce que c'est pas le genre d'équipe souvent qui fait un splash dans le marché des agents libres. Mais admettons qu'il y a un joueur qui devient disponible, qui vont le chercher, qui ont un corps arrière prêt à jouer maintenant, c'est une équipe qui peut encore brasser. Là. Les Chargers, je les vois encore aussi dans le mix. Puis l'année prochaine, moi, j'ai les mêmes... écoute, je vois encore une finale, ben même si c'était pas le cas cette année, mais... La finale de division qu'on a eue entre Chiefs et Bills, c'était moi, je la vois en finale de conférence. Ouais. Fait que c'est ça. Du côté AFC,
parce qu'il reste que les Bengals, on parlait d'eux comme d'une équipe Cendrillon. C'est pas pour rien, là.
Non, faut que tout retombe au les morceaux à bonne place. Mais comme je
vais pas faire une comparaison boiteuse, là, mais disons que personne n'envoie les Canadiens au final de la Coupe Stanley cette année. Là, il y a un moment donné où il y a des équipes où tout s'enligne bien. Tu passes, tu arrives à la fin, mais là, à la fin, t'échoues, mais t'as fait un parcours où tout s'est bien aligné, là.
Faut quand même donner du crédit, je dirais, aux visionnaires des Bengals, parce que ça reste que s'ils repêchent pas Jamar Chase, puis ils repêchent un joueur de ligne en attaque, l'an passé, je pense pas qu'ils se rendent au Super Bowl. C'est une façon qui est un peu bizarre de bâtir son équipe. C'est pas celle que j'aurais privilégiée. Parce que si tu fais pas attention, ça se peut que tu te ramasses comme les Colts quand Andrew Luck était parti parce qu'il était rendu trop magané puis il se faisait frapper à chaque année. Ben là, c'est ça qu'il faut qu'ils solutionnent rapidement, les Bengals. Mais ceci étant dit, ils ont quand même pris un gros risque, puis le risque a quand même rapporté. Les gars, ils se sont rendus au Super Bowl, là. C'est que c'est pas rien.
Puis les Bengals, il y a quelque chose qui joue pour eux. C'est un élément là, peut-être qui frappera pas les gens, mais il y a une continuité. Ils perdent pas leur coordonnateur. Les deux coordonnateurs sont de retour. Tu sais, je pense que c'est un point important. Regarde, les Bills ont perdu Daboll. Les Chiefs, potentiellement, pourraient perdre Bien-Aimé. C'est quelque chose qui va jouer en faveur des Bengals, là, l'aspect continuité dans l'équipe. Puis, juste la NFC un peu, parce qu'on n'en a pas parlé. En ce moment, là, et que c'est flou. C'est impossible de voir clair là-dedans. Est-ce que Rodgers va rester à Green Bay? Est-ce que les Saints vont aller se chercher un nouveau corps arrière, puis qui ce sera? Russell Wilson va-tu s'en aller de Seattle? Trey Lance à San Francisco à sa première année, est-ce que le club fait un gros pas en arrière? tu sais, il va avoir une adaptation. Là, on parle d'un corps arrière qui a très peu joué sur la scène universitaire, puis pas dans un gros programme de surcroît. Là. Les Rams, on en a parlé. Est-ce que Aaron Donald s'en va? Est-ce que Sean McVay s'en va? Même lui, il a pas confirmé hier qu'il revenait pour 2022. Il a dit « let's see, on va voir ».
C'est incroyable. Là, eux, ils sortent du Super Bowl avec toutes sortes de questions. Avant les séries, ils s'attendaient pas, là.
Non, c'est ça. Fait que c'est
mais
tellement,
qui s'attendait à ce qu'Aaron Donald, avant le match du Super Bowl, dise « ah, c'est peut-être mon dernier match. Excuse what? »
Non, c'est sorti de nulle part. T'sais, il y a 30 ans, il est ultra dominant. C'est pas comme si on se dit « ouais, mais là, on sent venir un déclin. » C'est pas ça pantoute, Aaron Donald. On l'a vu, il a pris le contrôle de la game en deuxième demi. Fait qu'il y a tellement de flou dans NFC qu'une équipe pourrait se faufiler. T'sais, je vois une équipe comme Dallas pourrait faire un bout si vraiment Rodgers est rendu dans l'AFC puis tout ça. Là. Donc, mais pour l'instant, écoute, c'est tellement pas clair l'horizon dans cette conférence-là que c'est bien difficile de se prononcer. Là. Les prochaines semaines vont nous en dire plus long. Là.
Si j'avais à voter tout de suite, moi j'irais avec les Niners. Un, ils ont fait beaucoup avec pas tant cette année. Je pense que Trey Lance, moi, ça va être un upgrade au poste de carrière parce que tu vas rajouter la dimension, il peut courir dans une attaque où ce que les gens ont déjà de la difficulté à les arrêter au sol en temps normal. Ouais. Et là, tu vas rajouter un carrière qui est capable de courir avec le ballon, ça va être tannant, là. Donc, s'il fait le moindrement le boulot au niveau aérien, c'est un club qui va être extrêmement dangereux. Au niveau du cap salarial, je pense que s'ils réussissent à échanger Jimmy G, il n'y a aucun problème. Ils sont en dessous du cap de 4,5 millions. Je pense que s'ils réussissent à échanger Jimmy G, c'est 26 millions qui vont éclairer.
Bon, ben, Jean, si tu veux bien, on va en parler après la pause de ça, parce que là, mine de rien, avant le prochain match de la NFL, c'est plus que 200 jours, là, à l'heure où on se parle. Fait que, on va devoir trouver des sujets si on veut regarder nos médias sociaux puis être intéressé par ce qu'on publie, parce qu'il va y avoir sans doute des joueurs qui vont changer d'adresse pendant la saison morte. On va en parler après la pause. On va parler de la saison morte, mais aussi du repêchage qui s'en vient. Bougez pas. Vous êtes à la zone payante. Jean-Nicolas Gagné avec vous en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Messieurs, on le dit, là, c'est souvent l'espèce de Blue Monday, là, le jour où... La semaine qui suit le Super Bowl, on se dit « bon, ben là, on est au pain noir là, pour un bout ». Mais il y a quand même quelques éléments intéressants à suivre pendant la saison morte. Qu'est-ce que vous allez suivre, vous autres, pendant que les joueurs se retrouvent en vacances?
Ben, selon moi, ça va être la migration des carrières qui va être le plus intéressant à suivre. Tout, je pense, va partir d'Aaron Rodgers. Mais la saison morte cette année dans la NFL apporte vraiment pas bien son nom. Parce que ça va brasser, là. Ça va ressembler beaucoup plus à une saison morte de la NBA que de la NFL cette année. Si Aaron Rodgers décolle de Green Bay, attention, là, tu sais, ça va être le ciel va être la limite, puis ça va tirer de partout. Il y a tellement de joueurs qui peuvent potentiellement partir. Il y a même Kyler Murray qui a fait une petite crisette là en Arizona, qui a pas l'air satisfait de son statut
présentement. À mon avis, il en a dit assez pour se sortir. Là, je sais pas.
Je penserais pas, parce que de ce que je lisais là, du côté des Cards, là, on veut tempérer un peu. Puis tu sais, regarde, il va revenir, il y a pas de problème là. Mais c'est pas ce que tu veux voir souvent de ton QB1, de ton c'est la phase de la franchise, ton corps arrière. Là, tu sais, enlever évidemment les cards de tous ces médias sociaux, écoute, c'était vraiment un peu bizarre. Donc, écoute, je pense pas qu'il est sur le trading block, mais on sait-on jamais. Puis, faut pas oublier, là, Deshaun Watson,
ça
gars-là est loin d'être terminé, là. Tu sais, s'il réussit à régler tous ses problèmes encore une fois hors terrain, et il est toujours pas à Houston. Houston vont sûrement l'utiliser comme monnaie d'échange. Puis il y a quelqu'un dans la ligue qui va être intéressé, là. Imaginez juste Deshaun Watson avec les Steelers.
Ah non, il y a des scénarios complètement fous qui peuvent arriver, là.
Et ça serait même le digne successeur d'une certaine façon de Big Ben, mais bon, écoute, on va passer à autre chose là-dessus. Là.
Russell Wilson, Deshaun Watson, Jimmy Garoppolo, Aaron Rodgers, il y a pas mal de joueurs là, qui peuvent de corps arrière. Puis les sur le terrain toujours, à part les corps arrière, tu sais, évidemment, là, les Rams, il va arriver quoi avec les Donald McVay de ce monde? La ligne à l'attaque des Bengals, ça va être les principaux suivis par rapport au Super Bowl. Mais sinon, en dehors du terrain, il va y avoir de la grosse nouvelle aussi. Tu sais, il y a une enquête sur Washington qui est en cours. Est-ce que ça pourrait finalement mener à la sortie de Dan Snyder? Tu sais, on ne sait jamais. Même chose à Miami. Ben oui. Si on arrive à prouver que Stephen Ross a vraiment offert 100 000 $ pour des défaites à Brian Flores, ça pourrait être très, très négatif sur l'image de la Ligue. Puis les propriétaires pourraient décider de le mettre dehors. Là. Ça se fait, ça. Donc, c'est pas impossible. Il va y avoir des histoires à suivre de ce côté-là. Puis, j'ai hâte de voir si la NFL va se pencher un peu plus sur la question de l'arbitrage. Ça a été un problème quand même souvent cette année. On en a parlé régulièrement. Est-ce qu'il y a des solutions à apporter par rapport aux reprises vidéo? Qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là? Je pense que ça va être une histoire, ça. Tu sais, dans les rencontres de ligue, c'est peut-être quelque chose qui va se discuter.
Je comprends qu'il va y avoir des dossiers à suivre un peu avec les joueurs qui vont sortir de leur ville, mais il y a des joueurs qui, eux, n'ont pas de contrat, là. Il y a des joueurs qui sont peut-être à chaque année reçoivent un gros chèque de paye à une signature ou un bonus ou des gros contrats. Là. C'est qui les gars qui risquent de changer d'adresse et d'obtenir un gros contrat ailleurs?
Il y a des gros noms, honnêtement. Le plus important, pour moi, le plus majeur, c'est peut-être le meilleur receveur de la NFL, c'est Devante Adams. Il est agent libre. Lui, dans son cas, j'ai l'impression qu'il va attendre, évidemment,
ce que
Aaron Rodgers va faire.
Clair.
Et en tout cas, moi, si j'étais lui, c'est ce que je ferais. C'est ça, c'est le plus gros nom, selon moi, qui risque potentiellement de changer d'adresse. Mais écoute, Tyrann Mathieu, c'est un maraudeur quand même que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup en défensive pour une équipe. Il est libre. Le bloqueur Terran Armstead des Saints, il faut qu'il signe parce que il y a quelqu'un qui va être intéressé quelque part, là, c'est sûr. Là, c'est un stud. Chris Godwin, receveur évidemment des Bucks. Il y a beaucoup de monde avec les Bucks aussi. On n'en a pas parlé beaucoup. En saison morte, ça va bouger beaucoup là, avec Brady qui a pris sa retraite. Qu'est-ce qui va arriver avec Gronk? Qu'est-ce qui va arriver avec beaucoup de monde? Le centre aussi offensif. Non, m'échappe. Là,
Ryan Jensen.
Ryan Jensen,
oui. Si je suis les Bengals, moi, je saute dessus. C'est un
ben
parfum,
oui.
Sans plus.
C'est vraiment un
gars qui joue avec hargne.
Exact.
Ça serait parfait pour un peu le caractère de cette ligne offensive-là. Moi, je le vois. Si j'étais les Bengals, je le verrais dans ma soupe dès maintenant.
Allen Robinson, de third, pour moi, c'est un receveur très, très dangereux qui pourrait... moi, je pense que lui, ce qu'il vise, c'est être avec un carrière élite. Il signera pas.
Mais il va-tu aller loin? Tu penses qu'il ira pas où il y a l'argent? Moi, on dirait que c'est l'inverse que je pense. Là, je pense que...
Moi, je pense qu'il est tanné de pogner des ballons.
Il va falloir qu'il se reprenne parce qu'il y avait...
Oui, vas-y, Steph.
Quand il y avait, lui, l'option, il était agent libre il y a quelques années, puis il a hésité entre Green Bay et Chicago, puis il a finalement opté pour Chicago. Mais
exact. Écoute, mais moi, je pense... Je pense qu'il l'a regretté un peu. Puis là, il est tanné.
Je pense que oui.
Il veut peut-être maintenant s'aligner pour une équipe qui a une chance. Chandler Jones, c'est un joueur défensif qui change la donne également, qui est extrêmement important pour les Cards. Il faut qu'il le signe. C'est loin d'être fait. Écoute, ça va être, moi, je pense, une saison... en temps d'arrêt à suivre de façon... Écoute, sortez le popcorn, puis on va suivre ça là, pendant quelques mois. Là.
Les Bengals, on en parlait pour la ligne à l'attaque. T'as sorti à Armstead là, comme agent libre. Au niveau des gardes, parce que je trouve qu'ils sont particulièrement faibles. C'est vraiment la grosse faiblesse, que ce soit Danny G ou même Quentin Spain. C'est lui qui s'est fait battre à la fin de la game là, par Aaron Donald. Brandon Scherff, est-ce qu'il va continuer encore une fois avec Washington ou il va se dire « ça y est, ça suffit, je m'en vais ailleurs ». Ça, ce sera un gros ajout du côté des gardes des Bengals. Connor Williams, sinon des Cowboys, pourrait aider là pas mal. Puis, pourquoi pas notre ami LDT?
Oui.
Laurent Duvernay-Tardif, qui est agent libre, est-ce qu'il va continuer à New York? Est-ce qu'il va opter plus pour continuer sa médecine? Tu sais, les prochaines semaines vont nous apprendre beaucoup plus là, sur les plans de Laurent, mais ça pourrait potentiellement être une cible pour les Bengals, là, mais je pense qu'ils vont viser vraiment dans l'élite de la NFL, là, un Brandon Scherf, par exemple. Pour eux autres, ça serait une cible de choix.
Les gars, parlons un peu, si vous voulez bien, du temple de la renommée, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont été ou entraîneurs de la NFL qui feront leur entrée au temple de la renommée cette année. Qui, selon vous, là, a été snobé? Là, qui aurait dû être là puis qui l'ont pas été cette année? Puis de qui vous êtes très heureux de voir son intronisation?
Pour moi, le nom le plus évident, c'est Zach Thomas. Jusqu'à maintenant, là, Zach Thomas, c'est un secondeur intérieur qui a dominé, tu sais, qui était peut-être pas le plus grand joueur en termes de taille, mais il a toujours compensé par son jeu physique, son instinct. Je suis convaincu qu'on va le voir au temple de la renommée, puis je pense que ça a pas joué pour lui le fait que Sam Mills est un secondeur qui est rentré là, justement en fin de semaine.
Un secondeur qui lui ressemblait aussi, ouais, petit.
Petit, c'est ça. Puis tu sais, il était à sa dernière année d'éligibilité, lui, si je me trompe pas. Donc c'est sûr que ça nuit à Zach Thomas, mais il va rentrer. Tu sais, je suis pas inquiet, mais si tu me poses la question, c'est qui le nom qui a été le plus snobé? Je pense que c'est lui. Il y en a qui vont dire Devin Hester parce que, écoute, il a complètement changé la game au niveau des retours de beauté. Là. C'est un autre, moi, je pense, qui va finir au temple de la renommée. Peut-être que first ballot, là, la première année d'admissibilité.
C'est un peu gros.
Peut-être qu'il y en a qui ont pas aimé ça comme tel, puis ils ont été un peu plus frileux.
Ouais, il s'est vu un peu plus gros qu'il était peut-être là.
Je pense qu'il va avoir sa place éventuellement quand même parce qu'écoute, il a été instrumental. L'année que les Bears sont allés au Super Bowl, rappelez-vous, c'était en 2006 avec l'immortel Rex Grossman comme corps arrière. Devin Hester a rendu de précieux services à cette équipe-là. Là. Il serait jamais rendu où il était, là, honnêtement.
Est-ce que Devin Hester est le meilleur retourneur de l'histoire de la NFL?
Je pense que oui.
Fait que pour moi, c'est un snob.
Ouais.
Si t'es le meilleur à avoir fait ça dans toute l'histoire du football, ben, je pense que tu mérites ta place à Kenton, mais je suis d'accord avec Stéphane, ce n'est que partie remise.
Tony Boselli, tu penses quoi de ça, toi, Jean? Parce qu'il y a un gros débat sur lui, puis même là, il est intronisé, puis ça va continuer. Il y en a qui disent, écoute, il a pas été assez durable, c'est une courte carrière. Mais il a été tellement dominant, lui, dans les années 90, puis c'était un joueur des Jaguars d'expansion. Là. C'était pas un contexte évident pour dominer à ce point-là. Moi, je suis content, honnêtement, qu'il ait sa place.
Oui, écoute, je me suis pas nécessairement tant attardé. Moi, je pense quand même que sa carrière est tellement courte que j'avais des points d'interrogation, mais j'ai pas de problème à ce qu'il soit là. S'il aurait attendu un an ou deux de plus, j'aurais pas eu de problème non plus. Tu sais, regarde, je suis content pour lui, puis c'est vrai qu'il a été très dominant dans les années qu'il a joué. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, puis surtout dans l'avenir de la NFL, qui vont avoir des carrières comme lui, ou qui sont très dominants pendant 4-5 ans, mais qui sont pas, qui auront pas une longue carrière. Là, tu fais quoi avec tous ces joueurs-là? Honnêtement, ouais. Je pense qu'il est un peu arrivé dans le bon temps, Tony, pour son introduction. Au temps de la renommée, parce que ça risque d'être plus difficile pour certains joueurs dans le futur qui ont ce genre de carrière-là. Moi, celui que je suis très content, c'est Richard Seymour. Je trouve qu'il a eu une carrière phénoménale avec les Pats.
C'était un peu le Patriot oublié dans tout leur système. Là.
Il changeait beaucoup la donne sur le front. Le monde a tendance à l'oublier, mais il était vraiment, vraiment tannant à bloquer. Au sol, c'était une force. Vraiment de la nature, il était capable de briser la pochette de l'intérieur pour mettre de la pression. Ça a été un joueur vraiment important des Pats. Ça, je suis content. Faut pas oublier, tu sais, il y en a que je m'en fais moins aussi. Dans le cas de Andre Johnson, pour moi, c'est un receveur qui va avoir sa place au temps de la renommée. Il l'a pas eu là.
Torrey Holmes.
Reggie Wayne aussi, tu sais, c'est ça. Faut pas nécessairement là.
OK, bon ben l'intronisation c'est avant le premier match pré-saison qui est quand même.
Mais une chose est sûre, c'est pas une grande cuvée.
Non, là. C'est pas une grande cuvée. Mais bon, là on se dit mon premier match de pré-saison il est dans un bout là, mettons au mois d'août. Là, il va avoir la signature des joueurs autonomes au mois de mars, l'ouverture du marché des joueurs autonomes.
16 mars.
Il va avoir le repêchage aussi à Vegas, fin du mois d'avril.
Oui. Ouais.
On a un peu parlé, là, du repêchage à venir. Mais disons que pour les gens qui suivent pas tant l'NCAA, là, puis qui aimeraient, là, se renseigner sur des joueurs, là, qui risquent d'être dans les discussions de tout le monde, là, qui sont les premiers joueurs, d'après vous, ou le premier qui devrait être repêché? Et aussi, là, c'est souvent ça, mais ce qui nous intéresse, c'est les quarts arrière. Quel quart arrière, d'après vous, sera sur la courte liste des équipes en première ronde?
Ben, au niveau du quart arrière, je pense que c'est pas mal réglé. Là. Je serais vraiment surpris que le premier sorti, ce soit pas Kenny Pickett. C'est le quart arrière de l'Université de Pittsburgh. Il a eu une saison phénoménale. C'est un gars qui est mature aussi. Là. Il a joué ses 4 saisons universitaires. Il y en a aussi là, qui est un peu comme le quart arrière des Bears. Justin Fields, qui lui, il joue juste 2 ans puis il s'en va à NFL. Ça change des fois la donne un petit peu. Quand tu joues 4 ans, ben, c'est sûr que tu as une maturité physique qui est différente un petit peu. Même au niveau cérébral, je pense qu'il va faire le boulot. Là. Puis je trouve qu'il coche beaucoup, beaucoup de cases d'un bon carrière. Donc, pour moi, c'est évident que ça va être lui qui va être le premier sorti, mais j'en vois pas beaucoup, honnêtement, en première ronde qui vont sortir comme carrière. Ça va être, selon moi, un repêchage où beaucoup les fronts vont être mis de l'avant. Puis selon les besoins des Jaguars, je pense pas que c'est le meilleur joueur de la QV. Et moi, je vois peut-être le bloqueur de NC State, Hiking Ekwonu. C'est peut-être celui qui va peut-être sortir premier. Je pense que ça serait un choix logique du côté des Jags de protéger ton investissement en Trevor Lawrence, d'aller chercher peut-être le meilleur bloqueur, selon moi. Il est un peu... excusez l'anglicisme, mais il est un peu raw, donc c'est un diamant un peu brut. Au niveau de sa technique, il est vraiment pas toujours parfait, mais il explosait du monde, les gars, là, au college, là, c'est fou, là. C'est un peu là un genre de puissance comme Quentin Nelson. Il est vraiment, vraiment physique. Pis ça, je pense que c'est le genre de joueur que je veux pour bâtir une identité sur ma ligne à l'attaque. Donc, ce serait peut-être mon choix, moi, pour être le premier à sortir cette année.
OK, Steph.
On lit à gauche, à droite, là, effectivement, que les Jaguars sont intrigués par ce joueur-là. C'est des affaires qu'on va lire en masse dans les prochaines semaines.
C'est la saison morte, mais c'est la saison des smokescreens.
Peut-être que le choix plus safe, s'ils veulent vraiment protéger Lawrence, est-ce que ce serait pas Evan Neal d'Alabama?
Il est plus prêt, je pense, pour la NFL, dans le cas de Neal, mais je pense que l'autre a plus de potentiel. Mais
celui que tu mentionnais, il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui disent, on n'est pas convaincu que dans la NFL, ce sera un tackle. Il pourrait peut-être être garde.
C'est possible.
Ça peut refroidir les ardeurs des Jaguars. Tu repêches numéro 1, il faut que ce soit un bloqueur. Ça peut pas être un garde, là. Sinon, est-ce qu'ils vont se dire, écoute, le meilleur joueur disponible, c'est tout simplement Aiden Hutchinson, l'ailier défensif de Michigan? Peut-être aussi. Ça dépend de la façon de penser des Jaguars. Est-ce qu'on y va pour combler un besoin criant qui serait sur la ligne à l'attaque pour protéger ton jeune joyau Trevor Lawrence? Ou tu dis, meilleur joueur disponible, peu importe la situation. À ce moment-là, on pourrait opter pour du renfort sur la ligne défensive. Donc ça va dépendre de leur façon de penser à eux. Pour les corps arrière, je suis assez d'accord avec Jean. Si on devait choisir aujourd'hui, ce serait probablement Pickett. Tu sais, c'est le plus prêt à jouer maintenant, le plus poli. Ça me fait un peu... Je compare pas les deux styles de jeu du tout, là. Mais ça me fait penser un peu à ce qu'on disait de Mac Jones l'an passé. Tu sais, il va être prêt à jouer assez rapidement dans la NFL, contrairement à d'autres, mettons, comme... Justin Fields, Trey Lance, qui avait moins d'expérience.
Il est plus athlétique, par contre, que Mac Jones.
Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais, je compare pas leur style de jeu. Tu sais, c'est pas mon point. C'est de dire, ben, écoute, il y a une expérience vraiment importante au niveau universitaire. Il est capable d'embarquer assez rapidement puis de contribuer. Mais il y a certainement des équipes qui vont être intriguées plus par le potentiel, le plafond de d'autres joueurs. Là. Tu sais, je pense à un Malik Willis à Liberty, qui est un athlète exceptionnel, un bras complètement redoutable. Tu sais, je sais pas si vous avez vu des images au Senior Bowl, c'est hallucinant. Là. Mais beaucoup d'imprécision dans son cas. Tu sais, c'est pas nécessairement ce que tu recherches là, au niveau de la NFL, où de plus en plus les carrières précises sont ceux qui sont les plus convoités. Mais tu sais, peut-être qu'un joueur comme ça.
Tu as joué à Liberty aussi, donc.
Ouais, c'est ça.
C'est pas South Carolina.
Non.
Mais tu sais, je fais juste mentionner qu'il y a des équipes, c'est clair qu'eux autres, ils vont être plus intrigués par le potentiel, par le plafond d'un joueur comme ça. Peut-être un Matt Corral aussi, un Desmond Ridder. Tu sais, des joueurs qui sont un peu plus athlétiques, même si Pickett l'est aussi, là, mais qui sont peut-être à un autre niveau, là. Donc, il y a ça à surveiller. Je pense pas qu'il y a des choix sûrs dans ce repêchage-là, ouais, au niveau des corps arrière.
Il y a un choix, moi, que je reviens toujours pour ceux qui ont besoin d'un joueur sur la tertiaire. Là, c'est Kyle Hamilton. C'est le maraudeur là, de Notre-Dame, je vous le dis. Là, pour moi, c'est un top 5 qui va sortir, c'est sûr et certain. C'est un extraterrestre. C'est rare qu'on ait un maraudeur aussi gros que ça, qui se déplace aussi vite, qui couvre du terrain. Il est pas fait, je dirais, dans la même lignée que les autres, lui. Donc, c'est lui à surveiller. Évidemment, tu as parlé d'Aiden Hutchinson, mais il faut parler de Kayvon Thibodeau. Ça va jouer aussi entre ces deux-là sur le premier edge à sortir.
Et c'est pas un gars de la Beauce.
Kayvon Thibodeau.
Mais tu sais, on commence déjà à lire que Thibodeau pourrait potentiellement glisser. Je serais pas surpris, honnêtement. Je parle pas qu'il glisse en 20, là. Mais tu sais, au début de l'année, c'était clair, c'était le potentiel numéro un. Puis on dirait qu'Hutchinson a pris une marge dessus.
Exact, je suis d'accord.
OK, ben merci les gars. Bonne saison morte. Là, on va suivre ça de près. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont surgir dans l'actualité dans les prochains mois, semaines, mais on rentre dans une longue disette avant le prochain match de la NFL. On vous souhaite une bonne saison morte aussi après la pause. Ben, ça sera. C'est pas parce qu'on s'en va en saison morte qu'il n'y a pas des gens qui peuvent se retrouver au bar. Alors, on va leur faire un petit voyage. Bougez pas. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. Vous êtes sur la zone payante et c'est le moment de conclure avec le bar. Et dans le bar, cette semaine, ben, est-ce qu'on retrouve des gens qui sont liés au Super Bowl ou on va ailleurs, Jean?
Super Bowl, pour moi, c'est juste une petite tape sur les doigts, là. Mais le maraudeur Taylor Rapp, lui, il a trouvé que gagner le Super Bowl, c'était l'endroit idéal par la suite pour demander à sa blonde de fort longtemps, Danny Johnson, en mariage. Et elle a dit oui, messieurs. Ça fait qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça sur un terrain de football? Moi, je trouve ça un petit peu cheesy. Par contre, écoute, j'ai même fait une petite recherche. Certains vont se rappeler que le porteur de ballon de Boise State au college, Ian Johnson, avait demandé la cheerleader en mariage après avoir battu Oklahoma en prolongation.
Ils sont encore ensemble.
Ah, ils ont même eu un enfant.
C'est ça qu'on voulait savoir. Bon.
Donc, je souhaite autant de bonheur à Taylor Rapp. Et pour ça, je vais lui donner... Écoute, je suis même allé faire un tour dans mes classiques, les gars. Je suis allé voir dans le film Cocktail avec Tom Cruise.
Bravo.
Et il va avec le fameux Love Juice. Et c'est ça que je vais donner à notre magnifique couple. Donc, le jus d'amour, c'est 6 onces et demi de... C'est un mix de jus de citron. 2 onces de jus de pomme, 2 onces de jus d'orange et 2 onces de rhum.
Un peu sucré.
Pour notre jus d'amour. Ouais, mais tu le prends pas d'une shot, là, j'en ai.
Non, j'avais pas le temps.
Tu le dégustes.
Oui.
Pour que tu puisses consommer par la suite ton mariage de la bonne façon et que ça dure longtemps, longtemps.
Bravo.
Je suis convaincu qu'ils ont déjà consommé le fruit défendu.
j'ai l'impression aussi.
Steph, toi, c'est qui t'en vas au bar en cette fin de saison?
Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vernon Hargreaves, mesdames, messieurs.
Vernon Hargreaves, ça doit pas être un gars qui est souvent habillé, ça.
En tout cas, il était pas habillé au Super Bowl. C'est un demi de coin, un ancien choix de premier tour, si je me trompe pas, des Bucks. Pourquoi Vernon Hargreaves? Pourquoi demain un joueur qui est pas habillé? Il me semble que ça n'a pas rapport à première vue. Mais oui, ça a rapport. Sur l'interception des Bengals qui ont été célébrés dans la zone des buts, ils prennent la pause, tout ça. Tout est normal jusqu'ici, comme la plupart des unités défensives le font depuis des mois. Là, on la voit tout le temps, la même pause au fond de la zone des buts.
Il retourne on sur le banc, on s'en va à la pause.
Et là, il y a une punition en revenant
on
de la pause.
De 10. Hein?
Comment ça? Puis là, c'est conduite antisportive. Puis voyons, on se demande, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ils ont une punition pour ça alors qu'on le colle jamais de l'année? Mais non, c'est pas les arbitres qui sont trompés. C'est que M. Hargreaves, qui est pas habillé, qui est en bon français un LT scratch, il est pas habillé, il s'en va célébrer, lui, avec sa gang, mais dans les règlements de la NFL, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. C'est interdit. Il a coûté 15 verges à son équipe, un peu de momentum. C'est dommage, honnêtement. Puis, il avait juste à rester dans ses sandales sur le long des lignes de côté. Puis, célébrer avec sa gang ses lignes de côté. Ça, il n'y a pas de problème.
Il était trop enthousiaste.
Ouais, c'est ça. Un peu trop d'émotion dans un moment probablement trop émouvant. Ça n'a pas eu d'impact sur le résultat, là, vous me direz. Mais quand même, ça mérite une tape ses doigts. C'est clown un peu. Et je lui ai trouvé un petit cocktail en l'honneur du LT Scratch qui s'appelle le Old Scratch. Il y a une recette pour tout. C'est ça qui est le fun. Moi, avant, je me contentais de leur donner du vin, de la bière, peu importe.
Mais là, Jean a monté les standards.
Ah non, il a élevé les standards. Puis je me suis dit que si un jour on veut publier notre livre, ben, faut vraiment faire des recettes inspirées. Donc, le Old Scratch, c'est 1 once et demi de scotch, 3/4 once de sirop de coconut. Ça doit pas être évident à trouver, ça. Mais c'est ça qui fait qu'un cocktail est bon là, quand tu as de la recherche dedans comme ça. 1/2 once de jus de lime, 1/4 once de sirop de fruits de la passion et du orange bitter. Donc, on a un barman qui va lui concocter ça. Ça va l'aider aussi à faire passer sa peine de la défaite au Super Bowl, malheureusement, pour les Bengals.
Très, très sucré hein, cette semaine.
Oui, c'est vrai. Vous avez hâte à l'été.
Eh oui.
Ouais.
Ben, ça donne un petit avant-goût du mois de juin quand on ouvre la piscine.
Merci, messieurs, pour ces drinks et pour ces punitions que vous avez données à ces deux joueurs qui vont passer quand même un bel été. Ils se sont rendus au Super Bowl, d'après moi. Ils vont être heureux. Et nous, ben, on va prendre une pause à la zone payante. On va se revoir bientôt. On sait pas. On va voir avec l'actualité. Merci, les gars, pour cette saison. Vous avez été, comme d'habitude, très intéressants et beaucoup de bons commentaires de la part des auditeurs. Je vous remercie d'avoir été là. Et
merci à toi, Jean-Nic.
Merci à toi. Puis merci aux auditeurs de nous suivre, de nous poser des questions pertinentes. C'est toujours le fun de voir que quand on vous pose la question sur nos différentes plateformes, puis de voir que vous intervenez, ça nous motive toujours.
Exact. On a des bons auditeurs. Parlez-en, répandez la bonne nouvelle, puis on va se retrouver bientôt. Merci à vous deux, merci à vous les auditeurs, et on se retrouve bientôt. Bye-bye.